Franche culture.
La curiosité sous toutes ses coutures.
11h, 11h30,
un jeudi sur deux,
sur Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche culture, au menu tous les 15 jours, l'actualité culturelle de l'Anjou et plus si affinité. Au micro, nous sommes 7 chroniqueurs à fouiller, fouiner, dégoter les perles culturelles de la région, 7 dont la seule motivation est la curiosité. Autour de la table avec moi aujourd'hui, Dominique, Isabelle, Cécile, bonjour.
Bonjour Bénédicte.
Alors on parle poésie, spectacle, art à Fontevraud et puis patrimoine. Et tout de suite, on commence avec vous, Dominique.
Le patriarche du patrimoine.
Aujourd'hui, Dominique, vous nous présentez la nouvelle exposition qui se tient aux rues, aux repères urbains, au milieu des Jardins des Beaux-Arts à Angers. Exposition dénommée le portail polychrome de la cathédrale d'Angers.
Oui, parce que si vous n'avez pas suivi attentivement les projets de restauration du portail et de création de la galerie devant la façade principale de la cathédrale, ou même si vous souhaitez en savoir toujours davantage, alors franchement, vous devez voir cette exposition. Elle se déroule en 5 séquences.
Donc la première séquence, sans doute l'histoire, Dominique ?
Bien sûr l'histoire. Le portail est sculpté vers 1150, c'est l'exact prolongement des travaux de la nef. Il se montre l'héritier des portails de l'abbaye de Saint-Denis, mais surtout de celui de la cathédrale de Chartres, et témoigne ainsi de la diffusion des mordels et des savoir-faire des artisans sur la moitié nord du territoire français. Il est très rapidement entièrement peint, le décor est d'une très grande richesse, il est habillé de bleu outre-mer, qui est fabriqué à partir du lapis lazuli importé d'Orient, et également de la dorure, qui est largement présente. En 1807, l'ensemble est entièrement recouvert d'un badigeon, car le bout de l'époque était au blanc et à la clarté.
Alors, deuxième séquence de l'exposition, la restauration.
La restauration de cette polychromie est lancée dès 2009, achevée en 2019. C'est un vaste chantier qui découle d'un important travail de recherche. Les ouvrages s'étant dégradés sous l'effet des pluies, des vents, des changements brutaux de température et des ruissellements, au point que les polychromies étaient devenues invisibles, recouvertes à la fois par les badigeons épais, mais aussi par les salissures.
On continue avec la galerie de protection.
La galerie de protection, elle est édifiée en 1225. Elle s'étend sur toute la largeur de la façade ouest, sur une profondeur de 7 mètres. Elle formait donc un espace entre le public profane, espace de la rue, et l'espace sacré intérieur de l'édifice avec de multiples usages, à la fois chapelle, lieu d'inhumation, commerce pieux et même d'atelier. C'est donc un lieu de vie extrêmement intense, mais cette grande galerie est détruite en 1807 car elle est jugée en très mauvais état.
Et donc on passe à la quatrième séquence, la reconstruction.
Et dès 1842, un projet de construction émerge, à l'époque sous la conduite du clergé, car la façade est jugée esthétiquement incomplète. Jusqu'aux années 2000, ce ne sont pas moins de 5 projets qui sont proposés, jamais sans aboutir. Mais toutes ces études ont conduit à la nécessité de cette reconstruction pour protéger la sculpture d'une part et les polychromies d'autre part, jugeant cet ouvrage pièce majeure du patrimoine français. C'est donc le ministère de la Culture, le propriétaire de l'édifice, qui a lancé cet ambitieux projet de construction de cette extension contemporaine. 5 architectes ont répondu au concours et le jury a retenu les dessins du japonais Kengo Kuma.
Voilà, donc c'est la dernière cinquième, l'architecte.
La dernière séquence est effectivement consacrée à l'architecte. L'exposition propose un audiovisuel, c'est vraiment le moment le plus fort de la visite, avec des présentations de ses grandes réalisations dans le monde entier, sa réflexion personnelle sur cette reconstruction contemporaine, qui est une vaste structure monochrome en pierre naturelle. Elle est constituée d'arches, d'ouvertures, une œuvre d'une très grande simplicité et d'une très grande élégance.
Alors Dominique, est-ce que ce n'est pas un peu choquant de retenir un architecte japonais pour ce projet ?
Le choix et la conclusion du jury qui a été organisée autour de ce projet, ceux qui voudront aller voir cette exposition comprendront très bien la raison pour laquelle c'est un Japonais qui a été retenu, non pas pour faire un effet de presse et pour montrer qu'Angers est à la pointe de la création artistique, mais simplement parce que réellement, ce Japonais a montré qu'il était le plus sobre, le plus simple et qu'il répondait au mieux au programme. Je dirais aussi qu'il fait partie de cette lignée de grands architectes comme Pei ou Tadeo Ando qui ont réalisé des créations contemporaines au milieu de patrimoine français déjà bien connu.
Oui, puis alors, en quoi il se distinguait des autres créations, des autres projets ?
Il se distinguait par sa grande simplicité. C'est un seul matériau pour la réalisation de cette architecture. Les autres proposaient à la fois des formes assez compliquées, avec une profusion de matériaux, et le jury a préféré, par sagesse, retenir le projet le plus simple, un élément neutre qui va mettre en valeur l'édifice proprement dit, et qui va mettre en deuxième plan la création de ce portail qui a un rôle technique et scientifique.
Et puis en plus, c'est très très élégant. Donc je rappelle les infos pour cette exposition, le portail polychromé de la cathédrale d'Angers, 9 siècles d'histoire nous contemple du 12e au 21e siècle, c'est au repère urbain à Angers, boulevard du Roi René, jusqu'au 14 mai.
Tournez la page avec Isabelle.
Isabelle, et si on célébrait la poésie aujourd'hui ?
Quelle bonne idée, un peu d'harmonie dans ce monde de brut, c'est l'instant poésie avec la 24e édition du Printemps des Poètes qui se déroulera du 12 au 28 mars 2022. Nous avons invité Jackie Essirard, peintre, graveur, poète et écrivain. Jackie Essirard, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous lire un petit peu de poésie, qu'est-ce que vous avez choisi ?
Alors, compte tenu de l'actualité, j'ai choisi les poètes ukrainiens. Et je vais commencer par Taras Shevchenko, qui est le grand poète ukrainien, qui est né en 1814. Et son texte est toujours d'actualité. C'est un homme qui a réveillé le nationalisme ukrainien. À cette époque, les Ukrainiens étaient déjà sous domination russe. Et le poème s'appelle Ivan Pilkova. Il fut un temps en Ukraine où les canons grondaient. Il fut un temps où les apourogues savaient régner. Ils régnaient et gagnaient leur gloire et leur liberté. Cela est passé. Seuls sont restés des tombes dans la plaine. Hautes sont les tombes où sombrèrent dans leur repos les corps blancs des Cosaques, drapés dans une toile écarlate. Hautes sont ces tombes noires, semblables aux montagnes, qui conversent à voix basse dans la plaine de la liberté avec les vents. Ces témoins de la gloire des ancêtres discutent avec le vent, tandis que leurs descendants portent sa faux dans la rosée en reprenant leur chant. Il fut un temps, en Ukraine, où le malheur dansait. Le chagrin s'enivrait à la taverne, d'hydromel par seau entier. Il fut un temps où il faisait bon vivre en cette Ukraine. Souvenons-nous-en, notre cœur peut-être connaîtra un répit.
Vous avez choisi un deuxième poème ?
Oui, un poète contemporain qui s'appelle Zerfi Zadan, qui est né en 76. Le poème a pour titre « Alors je vais en parler ». Alors je vais en parler de l'œil vert d'un démon dans le ciel coloré. Un œil qui épie en marge du sommeil d'un enfant, l'œil d'un malade dont l'excitation remplace la peur. Tout avait commencé avec de la musique, avec des cicatrices, laissées par les chansons entendues lors des noces d'automne avec d'autres enfants de mon âge. Les adultes qui jouaient de la musique. L'âge adulte définit par cela la capacité de jouer de la musique. comme si quelque note nouvelle, responsable du bonheur, apparaissait dans la voix, comme si ce talent était inné en l'homme. Être à la fois chasseur et chanteur. La musique est le souffle caramel des femmes, la chevelure au parfum de tabac d'hommes qui, mélancoliques, se préparent au combat au couteau contre le démon qui vient gâcher la noce. La musique en deçà du mur du cimetière. Les fleurs qui poussent dans les poches des femmes. Les écoliers qui jettent un œil furtif dans les chambres de la mort. Les sentiers les plus battus mènent au cimetière et à l'eau. Tu ne caches que les choses les plus précieuses dans le sol. L'urne qui mûrit de colère. Les cœurs en porcelaine des parents qui sonneront comme les chansons d'une chorale d'écoliers. Je vais en parler des instruments avant de l'angoisse de la cérémonie de noces aussi mémorable que l'entrée à Jérusalem. Règle le rythme brisé du psaume de la pluie sur ton cœur. Des hommes dansent, comme ils éteignent un feu de steppe avec leurs bottes. Des femmes s'accrochent à leurs hommes dans la danse, comme si elles refusaient de les laisser partir en guerre. Ukraine de l'Est, fin du deuxième millénaire, le monde déborde de musique et de feu. Dans l'obscurité s'élève la voix de poissons volants et d'animaux chanteurs. Depuis, presque tous ceux qui s'étaient mariés sont morts. Depuis, les parents des gens de mon âge sont morts. Depuis, la plupart des héros sont morts. Le ciel se déploie, amer comme dans les romans de Gogol. En écho, le chant des moissonneurs au travail. En écho, la musique de ceux qui, dans les champs, charrient des pierres. En écho, sans arrêt.
Très émouvant. Ça fait vraiment écho au concert qui a eu lieu hier soir même à Kiev de l'Orchestre National L'Évocation de la Musique. Merci beaucoup.
Merci Jackie. Vous pouvez trouver le programme du Printemps des Poètes avec un agenda fourni sur le site printempsdespoètes.com/villedangers et sur la page Facebook du Printemps des Poètes, Danger Collectif, et également sur YouTube.
Voilà, et puis on fait tout de suite une petite pause jazz avec Cécile McLaurin, Salvant.
I like to keep our love going long. But no matter how much I lied, the truth was too strong. I cried when you decided. Much more than you'll ever know. My pride is my only company. My pride will get the best of me. Ghost of our love, I will dance with the ghost of our long lost love. I'll carry the ghost of our love. I will carry the ghost of our.
Direction l'abbaye de Fontevraud, au musée d'art moderne avec l'exposition temporaire Voyages divers. C'est à vous, Cécile.
Oui, le musée d'art moderne, ce sont plus de 900 œuvres d'art exposées dans les 1700 m² de l'ancienne fannerie. Alors fannerie, on dit fannerie parce que c'est un bâtiment du 15e siècle qui avait été conçu à l'abbaye de Fontevraud pour entreposer du foin. Nous y avons rencontré sur place la commissaire de l'exposition temporaire, Aude Lemercier. Et pour bien comprendre tout d'abord l'esprit du musée, on l'écoute nous expliquer l'origine de cette collection.
C'est une collection privée qui a pris une dimension publique à la suite d'une donation qui a été faite par Martine et Léon Kligman à l'État et à la région des Pays de la Loire. Martine et Léon Kligman avaient une démarche bien différente dans leur choix, dans leur façon d'apprécier une œuvre d'art. Martine Kligman a grandi au contact d'artistes. Son père et sa mère fréquentaient énormément André Derain et Maurice Marino. Et c'est notamment Maurice Marino qui a formé les premières heures de Martine, en tout cas à l'art. Et elle a gardé cette dimension très sensible, très émotionnelle autour de la démarche artistique. Tandis que Léon Kligman, avant de rencontrer Martine, n'avait pas cette approche-là. Et donc lui s'est forgé son œil en consultant des ouvrages, en cherchant des informations sur les œuvres qui l'interpellaient, qui l'intéressaient. Et donc lui s'est construit une dimension scientifique, une culture scientifique autour des œuvres. Et ils achetaient lorsque les deux univers se rencontraient, donc la démarche sensible et émotionnelle de Martine avec la démarche scientifique de Léon Kligman.
Voyage d'hiver, donc, c'est la première édition d'une série d'expositions saisonnières qui aura un principe bien particulier. Aude Lemercier nous explique ça. Des œuvres d'un musée extérieur sont présentées en écho au parcours permanent qui, lui, est fondé sur le dialogue.
L'ADN du musée d'art moderne de Fontevraud, c'est le dialogue. Le dialogue entre les œuvres, entre les époques et entre les différentes aires géographiques. Et toute notre programmation temporaire est envisagée sous cet angle-là également. Et là, Conciliabule est envisagé comme un dialogue entre différentes collections de musées. Donc nous avons invité les musées d'art et d'histoire de La Rochelle à venir dialoguer avec notre propre collection. Et nous avons réussi à réunir, à sortir en fin de compte 5 thèmes différents, à savoir le voyage d'Italie, les terres bretonnes, vision d'Orient, les promenades japonaises et également quelque chose autour des ports.
Alors, les œuvres ne sont pas positionnées dans une salle à part comme dans beaucoup d'expositions temporaires, mais elles sont au contraire positionnées tout au long du parcours au milieu de la collection permanente pour y répondre. Il y a donc 5 thèmes phares, tous basés sur le voyage. Le voyage, c'est la source d'inspiration des artistes et bien entendu des mouvements artistiques. Et comme le dit Aude Lemercier, si l'Italie a beaucoup inspiré, on le sait, les artistes avec le fameux voyage à Rome, la Bretagne a aussi été un Eldorado dès le début du 19e siècle.
Ce qui va faciliter l'accès à la Bretagne à partir de la seconde moitié du 19e siècle, c'est la mise en place d'un réseau de voies ferrées. On ne met que 15 heures entre Paris et le centre de la Bretagne. Ce qui est assez incroyable, c'est que le voyage en tant que tel donc, dure 15 heures et que les artistes arrivant de Paris découvrent, comme un pays étranger, une aire géographique presque vierge. Ils découvrent une Bretagne avec des habitants complètement inscrits dans la ruralité, qui n'a été que très peu touchée par la révolution industrielle. Des gens qui sont également très très croyants, avec une nature très dure, des couleurs différentes du paysage parisien. Le premier d'ailleurs qui ne va pas s'y tromper, c'est Paul Gauguin qui va arriver à Pont-Aven dès 1886 et qui va donc attirer d'autres artistes à venir fréquenter cet endroit-là. Et notamment Paul Sérusier à qui il donnera cette fameuse leçon de peinture et qui donnera naissance au tableau Le Talisman qui est conservé à Orsay aujourd'hui et qui donnera naissance également au groupe des Nabis. À La Rochelle, nous avons découvert un tableau d'Henri Désiré qui s'appelle « Tête de Bretonne au ruban rouge ». Et ce qui est très étonnant avec ce tableau, c'est qu'il s'inscrit dans une époque, à savoir autour du 1913, où l'avant-garde a beaucoup marqué l'univers artistique français. Mais il s'avère qu'avec ce tableau d'Henri Désiré, on s'inscrit plus dans une démarche 19e. On est sur un portrait d'une Bretonne très, très marquée, en fin de compte, avec le visage vraiment buriné par le sel, le vent, sûrement également par un climat assez rude. Qui est dans un habit traditionnel, qui ne s'est pas du tout affranchie, en tout cas de son habit traditionnel, elle porte la coiffe. Henri Désiré a cherché, en fin de compte, là, à représenter l'authenticité de l'âme bretonne.
Et ce tableau dialogue avec un très très beau paysage mauve de Paul Sérusier, un de mes tableaux préférés dans ce musée. On est toujours à l'écoute de Radio Campus, Franche Culture, à l'abbaye de Fontevraud, au musée d'art moderne avec Aude Lemercier, commissaire de l'exposition Voyage d'hiver. Et on passe à un autre thème phare de l'exposition, l'orientalisme.
À La Rochelle, vous avez deux artistes orientalistes, Eugène Fromentin et Gustave Guillaumet, et que nous avons mis en parallèle avec nos orientalistes à nous, Maurice Marino et Charles Dufresne. L'orientalisme, c'est quelque chose qui existe depuis le 15e, 16e siècle, avec l'attrait pour les Turqueries. D'ailleurs, on en a une mention, notamment dans Le Bourgeois Gentilhomme, avec le grand Mamamouchi. Mais il y a un attrait décuplé à partir de la campagne que mène Napoléon Bonaparte en Égypte, où certes c'est une campagne militaire donc au début du 19e, mais c'est aussi une campagne scientifique où il va emmener des chercheurs avec lui pour analyser certes l'environnement historique, mais également la faune, la flore et la civilisation qui vit sur place. Et les retours en fait de ces chercheurs qui vont là-bas vont passionner les foules. C'est à ce moment-là qu'on va parler même d'égyptomanie, et ça va également passionner les artistes. Alors quand on parle d'orientalisme, souvent on pense à Delacroix ou on pense à Chassériaux, mais on a une autre frange également dans l'orientalisme, à savoir une dimension plus ethnographique. Et c'est à cette frange-là qu'appartiennent Eugène Fromentin et Gustave Guillaumet, qui eux, en fait, vont arriver en Algérie par hasard. Eugène Fromentin arrive en Algérie parce qu'il est invité pour un mariage, et il va se prendre d'amour pour ce territoire-là, qu'il va tout autant peindre que décrire dans deux œuvres, Un été dans le Sahara et Une année au Sahel. Gustave Guillaumet, lui, de son côté, souhaitait faire un voyage vers l'Italie, mais lorsqu'il veut prendre le bateau à Marseille, eh bien, il va se trouver coincé au port parce qu'il y a une grande tempête. Et lorsque la tempête s'arrête, eh bien, bateau part pour l'Algérie. Il se dit, bon, bah, quitte à partir, autant partir pour l'Algérie. Et là, encore une fois, coup de foudre pour ce territoire-là. Il va y passer la moitié de sa vie, en fait. Et l'un comme l'autre vont chercher à représenter l'univers de ce pays-là. Chez l'un comme chez l'autre, on ne trouve aucune expression de la modernité ou de la présence de l'occupation française sur place. Mais eux, ce dont ils cherchent à témoigner avant tout, c'est l'univers de la vie algérienne. Et on le voit au travers des différentes œuvres qui sont présentées ici, que ce soit donc ce cavalier avec ce derviche donc sur la croupe de son cheval, que ce soit de l'autre côté avec Gustave Guillaumet qui montre l'intérieur d'une tente berbère avec ses femmes en train de travailler, et qui en plus témoigne de l'intimité à laquelle Gustave Guillaumet avait accès. On l'a laissé s'approcher des femmes. Et on a même un tableau de l'autre côté qui montre en fait une jeune berbère en train de poser pour lui. Et en dialogue, on retrouve donc Maurice Marino et Charles Dufresne. Charles Dufresne, c'est quelqu'un qui a été en résidence en Algérie. Il a bénéficié de cette résidence qui s'appelle la Villa Abdeltif, qui a été mise en place à partir de 1907. Et les artistes donc avaient accès à cet ancien fort turc, donc la Villa Abdeltif, dans laquelle ils pouvaient résider au départ une année, et à la suite de cela deux ans, au sein de laquelle ils découvraient donc la vie algérienne, mais aussi tout le pays, et où ils n'avaient pas d'obligation de production. De l'autre côté, on a Maurice Marino qui, lui, n'est pas allé en Algérie, mais qui est allé au Maroc pendant la Première Guerre mondiale et qui a réalisé comme une espèce de carnet de voyage. Il va peindre et il va surtout dessiner énormément tout l'univers marocain.
Et voilà, et enfin la collection nous emmène à l'autre bout de la planète, le Japon. Alors le Japon s'ouvre à l'Occident en 1866 et c'est une incroyable découverte parce qu'avant cette date, c'était un territoire interdit, donc absolument inconnu. Et c'est l'exposition universelle de 1877 qui a permis de découvrir les grès, les lacs, les paravents et un art du dessin radicalement différent. Ça va influencer énormément les peintres, notamment les impressionnistes, mais tous les artistes. Et l'exposition au musée d'art moderne de Fontevraud présente notamment de magnifiques albums d'Okuzai. Okuzai, c'est quand même le maître majeur du dessin japonais. Des objets de la cérémonie du thé qui sont très délicats et pièce majeure de l'exposition, une armure de samouraï.
Le samouraï est à son daimyo, ce que le chevalier est à son seigneur. Hein. C'est quelqu'un qui est complètement dédié, en tout cas, au gouvernant. Et si les samouraïs donc, sont très occupés, en fin de compte, jusqu'au XVIIIe siècle, lorsque le Japon commence à connaître une ère de paix, nos amis samouraïs n'ont plus grand-chose à faire, entre guillemets. Et malheureusement, ils perdent petit à petit leur charge. Certains d'entre eux vont devenir des administrateurs, mais d'autres vont sombrer en fait, dans la misère la plus profonde. Et cet attrait des Occidentaux pour les objets japonais vont inviter certains eh bien, à céder leurs armures contre de l'argent. Mais évidemment, pour éviter le déshonneur, ils vont enlever toute chose qui permettrait d'identifier l'ancien propriétaire de cette armure. Et c'est le cas avec celle-ci, où on ne sait absolument pas à qui elle a pu appartenir avant d'arriver à La Rochelle.
Voilà, une visite à ne pas rater vraiment. On ne dira jamais assez que ce musée est absolument exceptionnel. Sachez d'ailleurs, Bénédicte, qu'il a réalisé en 6 mois plus d'entrées que son objectif annuel.
Voilà, donc voyage d'hiver, une exposition au Musée d'art moderne de Fontevraud. C'est jusqu'au 1er mai et tous les renseignements sont sur le site. Tout de suite, on continue avec vous, Marie. Les Résonances Saint-Martin retrouvent leur public cette année après 2 ans d'interruption. C'est à vous, Marie.
Oui, c'est une reprise en présentiel. Alors, c'est à la Collégiale Saint-Martin à Angers, c'est jusqu'au 26 mars. Et pour en parler, j'accueille Isabelle Lay, directrice de la Collégiale. Bonjour Isabelle.
Bonjour à tous.
Alors, donc, on l'a dit, il y a une interruption, mais c'est quand même la 13e édition des Résonances. Mais pourtant, beaucoup, beaucoup de premières fois pour cette reprise, Isabelle.
Tout à fait, tout à fait. On a commencé à se diversifier en termes d'ouverture artistique sur certains nouvelles expressions. Et cette année, c'est la première. Enfin, il y a plusieurs premières qui sont concernées. C'est la première fois que le planning est resserré sur 4 semaines. Jusqu'alors, c'était une saison qui s'étalait sur 4 à 5 mois, mais ça reste quand même une saison. C'est la première fois également qu'on s'est ouvert à de nouvelles expressions comme le spectacle jeune public, les musiques actuelles avec un partenariat que nous fait le Shabada. Et puis, c'est également la première fois que nous accueillons...
Les Arts du Cirque.
Tout à fait.
C'est le dernier spectacle, le 26 mars.
Merci, voilà. Tout à fait, en clôture de saison.
La Collégiale s'y prête, c'est immense. Alors, ce soir, c'est les Tambours de Brazza qui se produisent. Il y a déjà eu 2 spectacles. Alors, est-ce que le public est au rendez-vous?
Alors, bah, écoutez, on espère, on fait tout pour en tout cas. Oui, en tout cas, on est content de le retrouver enfin sous les voûtes de la Collégiale. C'est vrai que l'année dernière, on avait fait des captations de 4 spectacles sur les 8 qu'on avait programmés en principe en direct dans le site. Les éléments étant ce qu'ils étaient à l'époque, ça n'a pas été possible. Donc cette année, on est absolument ravis que le public puisse revenir. Il reste quand même des places pour ce soir, hein, ceux que ça peut intéresser.
Soir, voilà. Les Tambours de Brazza.
Voilà, il ne faut pas hésiter à venir. Ça sera un spectacle très festif. Je pense qu'on a besoin aussi de ça en ce moment. C'est 8 artistes sur scène, c'est un spectacle complet. Enfin,
des
voilà,
percussions
des percussions, du chant, de la musique, de la danse.
Et les percussions, ça marche bien à la Collégiale?
Oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin d'amplifier la musique en l'occurrence.
Ça marche très bien. Alors n'hésitez pas à les regarder pour ce soir. Alors c'est très accessible. Enfin, une de vos motivations dans la programmation, c'est l'accessibilité.
Tout à fait. L'éclectisme. Voilà. Hein, on s'est ouvert depuis 2017 à de nouveaux arts.
Il faut vous rapprocher un petit peu du micro.
Je me rapproche. Merci. Voilà. On s'est ouvert à de nouveaux arts, notamment la danse contemporaine, les musiques du monde. Cette année, donc, les musiques actuelles sont en rendez-vous. Et puis, voilà, l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre la culture et notamment le spectacle vivant.
Alors, comment ça se construit une programmation des Résonances?
Alors, c'est un travail...
Ça fait 13 ans, il y a longtemps que vous programmez, donc...
Tout à fait. Alors déjà, je ne suis pas toute seule pour le faire. C'est un travail collégial et d'équipe. Bon, vous imaginez qu'on est très sollicité par de nombreux artistes. Ensuite, on écoute beaucoup de choses, on se tient au courant de ce qui se fait. Et puis enfin, on travaille aussi avec les acteurs du territoire, hein, les acteurs culturels. Parfois, on peut être en coproduction ou en partenariat. Là, c'est le cas notamment avec le Shabada pour cette année.
Donc, musique actuelle, c'est la nouveauté avec le Shabada.
Alors, on avait eu l'occasion d'accueillir déjà des spectacles de musique actuelle, mais c'est la première fois que les musiques actuelles intègrent de façon pérenne, nous le souhaitons en tout cas, la programmation des Résonances Saint-Martin. Voilà.
Alors, à qui ça s'adresse, les Résonances? Quel est votre but avec cette saison artistique?
Eh bien, alors, la Collégiale, c'est aujourd'hui un équipement touristique, mais c'est aussi un équipement culturel. On a une programmation annuelle, un agenda culturel très diversifié. Hein. On ne fait pas que de la visite ou que de la médiation du patrimoine. On fait des expositions temporaires, ça vous le savez. On a donc cette saison musicale. L'idée, c'est de faire de la Collégiale vraiment un patrimoine vivant qui permette non seulement de faire venir le public, mais aussi de le faire revenir, de le fidéliser. C'est pour ça qu'on a installé des événements culturels qui sont désormais récurrents, pour pouvoir proposer un certain nombre de temps forts toute l'année à nos visiteurs.
Merci Isabelle. Pour tous les renseignements, il faut aller sur le site collégial-saint-martin.fr.
Merci Marie. Et tout de suite, on écoute un petit air de Han Pan. Parce que ce week-end, vous pouvez venir au concert « Musique et poésie pour l'Ukraine et contre la guerre ». un concert plein de surprises avec batterie et handpan. Le handpan, c'est voilà, ce qu'on écoute. Une soucoupe en acier que l'on tape avec les doigts et qui produit un son très envoûtant. C'est gratuit, mais l'association Les Amis de Passavant et Clairet sur Layon compte sur vos dons pour les reverser intégralement au peuple ukrainien à l'issue du concert. Ce sera donc dimanche 13 mars à 16h à l'église de Passavant sur Layon. Et puis, si vous aimez le théâtre, rendez-vous à Cholet. Le théâtre régional des Pays de la Loire va jouer Maestro avec la participation exceptionnelle d'une trentaine de musiciens amateurs du conservatoire. Inspiré d'une histoire vraie en Amérique du Sud, Maestro nous plonge dans le quotidien d'enfants délinquants sauvés par la musique. C'est un spectacle très sympa. C'est vendredi 18 mars à 20h30 et samedi 19 mars à 19h. C'était Franche Culture sur Radio Campus, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Vous pouvez nous retrouver pour la rediffusion de l'émission le mardi à 19h. Et surtout, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à partager notre podcast ou nous liker sur les réseaux sociaux.
À retrouver sur le www.radiocampusangers.com.